Alors, t'es sur article ou pas t'es sur article? Alors, vous faites ce que vous voulez. Voilà, moi, le problème que j'ai. La thèse, c'est un exercice. OK? C'est un vrai exercice de l'esprit. Et pour moi, les thèses sur article, c'est même pas compatible avec, vous savez, les thèses vues de l'esprit, travail original. C'est vraiment pas compatible. Alors après, je suis conscient que thèse sur article en biologie égale bonne thèse. En biologie, thèse pas sur article égale mauvaise thèse. Souvent. Et on l'entend de plus en plus. J'hésite même, moi, aujourd'hui, à dire à mon étudiant de faire une thèse sur article. Honnêtement, je vais laisser mes étudiants décider. Moi, je voulais en faire une. En revanche, j'ai écrit une thèse très classique. Pourquoi ? Alors, les avantages d'une thèse classique, c'est que vous pouvez vraiment mettre en évidence ce cheminement parce que vous allez devoir tout écrire. Ça vous permet de prendre du recul et de vous approprier le sujet. Souvent, le problème qu'on a, le risque, on va dire, le principal risque que vous avez des thèses sur articles, c'est que c'est des thèses bâclées. En gros, vous empilez vos articles, vous faites un pseudo-état de l'art qui est ni plus ni moins qu'une revue. Du coup, vous mettez même plus, le cheminement, il est quasiment plus. Du coup, vous avez une démission des correcteurs, c'est-à-dire que votre encadrant de thèse, il va mettre les articles, il va à peine lire le mathmètre, parce que c'est à la limite le matériel et les méthodes qu'on va vous demander d'écrire, et d'écrire des mini-discussions sur chaque papier. Donc c'est vrai que c'est super confortable pour un correcteur. Mais est-ce que la logique y est ou pas ? C'est ça le problème. De plus, est-ce que c'est vous qui avez écrit les articles ou pas ? Combien vous êtes sur les articles ? Donc, in fine, est-ce que cette thèse est votre propre production ou pas ? Et ça vous... À mon sens, thèse sur article, difficulté de prendre du recul à la fin. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas fait l'effort de prendre votre sujet de A à Z et d'en faire une synthèse. Alors, encore une fois, ce sont des risques. Je n'ai pas dit que c'était vrai. C'est les risques que vous pouvez avoir sur une rédaction de thèse sur article. Vous pouvez rédiger une thèse sur article à partir du moment où vous faites l'effort de bien prendre du recul sur ce que vous faites, de bien montrer le cheminement de pensée, et de bien faire les choses. Mais une thèse sur article qui consiste à faire un pseudo-état de l'art qui est encore une fois ni plus ni moins qu'une revue, qui n'a pas forcément à voir avec tous les articles, de faire un espèce de matériel et méthode, d'empiler les premiers articles et de faire une discussion de 5 pages dessus, deuxième article, une discussion, troisième article, une discussion, est-ce que à la fin c'est votre production ou pas ? Thèse sur article, c'est chaque chapitre est un article, d'accord ? Donc je ne rédige pas ou je rédige peu. Ça, c'est première thèse sur article. Tu as dit qu'il y en avait deux façons de le faire. Une thèse où tu poses ton état de l'art, où tu vas mettre tes résultats importants, suivant une organisation de logique jusqu'à la conclusion, où tes articles ne sont pas intercalés dedans, mais sont en annexe, et où tu renvoies sur certains points sur les articles en annexe. Ce n'est pas une thèse entre guillemets sur article. C'est une thèse courte, parce que souvent on les fait courtes. Voilà. Ça, c'est typiquement ce qu'on fait pour les HDR. Les HDR, on écrit 70 pages et tous les résultats sont dans les articles. Qu'est-ce qu'on fait ? On sort les résultats importants et que la logique de pensée. OK ? Donc, alors, c'est une thèse, voilà, c'est pas une thèse vraiment sur article, c'est une thèse où tu vas écrire les choses. Ben oui, ça c'est une thèse, on va dire, classique, courte, et là justement, tu vas refaire un certain nombre de figures pour ta thèse. Tu vas pouvoir refaire des graphes, et là tu vas plus mettre même en avant la façon de penser, plus que l'empilement des résultats. D'accord ? Mais ça reste une thèse classique, en termes de rédaction. OK ? Voilà. Et ça, voilà. Donc, la thèse où vous mettez les articles en annexe, de toute façon, dans une thèse, vous mettez toujours les articles en annexe. Hein. Si vous en avez, vous les mettez. Hein. On est d'accord. Hein, les articles sont toujours en annexe d'une thèse. Donc, c'est pour ça que j'appelle ça thèse classique. OK ? Voilà. Et les thèses sur articles où vous mettez un chapitre, un article, pour moi, c'est vraiment ça la thèse sur article. C'est très bien pour les correcteurs. permet de faire rapide. Mais après, est-ce que les gens ont vraiment fait le travail de recul? Est-ce que c'est eux qui ont rédigé la thèse? Et c'est vrai que c'est un peu ce qu'on, c'est des questions qu'on se posait en fait avec pas mal de gens. C'était en définitive une thèse où on mettait, où chaque chapitre était vraiment l'article et où il y avait juste une discussion. On se disait, est-ce que c'est l'étudiant qui l'a écrit? Réellement. Parce que, est-ce que c'est l'étudiant qui écrit ses articles? Sachant qu'un premier jet d'article posé par un étudiant qui est quasiment totalement transformé par son encadrant de thèse, c'est pas l'étudiant qui l'a écrit, hein. On est d'accord. Alors, dans votre conclusion, qu'est-ce que vous faites? Vous reprenez les questions de recherche, une synthèse des résultats, en quelques lignes, une ouverture et proposez une suite. Alors, dans une thèse, on propose toujours une suite. Oui, parce que le jour de votre... En plus, ça vous permet de vous préparer à cette question assez terrible, le jour de la soutenance, qui est question numéro 1. Et qu'est-ce que tu proposes de faire pour la suite? En gros, tu as un sujet, maintenant, qu'est-ce que tu ferais? Si on te donne le budget, numéro 1. Question numéro 2, ça permet aussi de te préparer à... Bon, bah, imagine-toi que tu commences ta thèse maintenant. Comment tu abordes le sujet? Là, on voit très vite l'étudiant qui a bien écrit sa thèse, c'est-à-dire qui a pris du recul dessus, qui a fait vraiment le cheminement de pensée, et celui qui a bâclé la rédaction de sa thèse. Parce que celui qui a bâclé la rédaction de sa thèse, il vous répond « ou alors, je fais pareil ». Voilà. Et ça, c'est les deux mauvaises réponses. Vous écrivez bien votre thèse, vous avez vraiment le cheminement de pensée. Du coup, à ce genre de questions, vous répondez assez facilement sur ben, « qu'est-ce qui a été bien fait ?» Si on avait su ça, ben on ne serait peut-être pas allé dans cette direction, mais plutôt dans cette direction. Donc c'est vrai que ça vous permet de pouvoir penser à ces questions-là. Ensuite, vous avez votre partie référence. Alors pareil, format, fonction des contraintes, on écrit tous de façon différente. En revanche, vous avez des informations minimales pour un article, c'est au moins un auteur. Journal, volume, page, date, hein, ça c'est des trucs classiques. Indexation, soit par numéro, soit par nom et date. Alors ça, ça dépend en fait de vos contraintes. Numéro, par numéro, c'est la plus courante, ça permet de ne pas couper le texte. Par date et auteur, ça, c'est assez. Il y a un super avantage à ça. C'est qu'en fait, quand vous avez votre revue à la fin, notamment sur la partie biblio, vous avez des auteurs récurrents, ça vous permet d'avoir une revue de tous les auteurs récurrents. Et notamment de trouver facilement, enfin que le lecteur, que la personne qui vient après, trouve facilement les références du ponte dans le domaine. Parce qu'ils vont être mis par auteur. Donc ça, après, c'est un peu comme vous voulez. Hein. Enfin, c'est un peu comme il est d'usage chez vous. Bon, vos annexes. Important, ajout d'informations, mais pas mettre les résultats fondamentaux en annexe. Hein ? Les résultats fondamentaux, on les met dans le manuscrit. Indispensable, vous mettez vos articles. Alors, certains protocoles expérimentaux détaillés, vous n'avez pas envie de les détailler dans votre partie, vous pouvez les mettre en annexe. Les développements mathématiques, les codes logiciels. Mais ça, pareil, encore une fois, les annexes, en fonction de vos disciplines, en fonction de votre thèse, c'est un peu en fonction. Là, le truc important, c'est ça. Parce que votre avenir et votre travail, malheureusement, c'est les articles. De toute façon, on ne nous demande que de produire maintenant. Et les informations qui ne sont pas des résultats fondamentaux, c'est-à-dire ne pas mettre de résultats fondamentaux en annexe. Ok ? Voilà. Alors, quelques conseils avant de rédiger. Ça fait toujours rire les gens. Utilisez des outils informatiques que vous maîtrisez. Vous maîtrisez Word, vous écrivez sous Word. N'essayez pas de vous mettre à LaTeX, par exemple, parce que ça fait bien, c'est plus joli, mais si vous maîtrisez pas le logiciel, c'est assez stupide. Vous utilisez Word au labo, vous avez un Mac chez vous, ne commencez pas à rédiger votre thèse sur Page que vous n'avez jamais utilisé, sauf pour faire une lettre de résiliation d'appartement chez vous. Non, je déconne pas. Vous avez un logiciel de traitement de texte, c'est compliqué. On vous le vend comme quelque chose de facile, mais c'est quelque chose de très compliqué. Et ça peut être assez le bordel. D'accord ? Donc, on utilise des outils qu'on connaît. On ne découvre pas un logiciel en rédigeant. C'est-à-dire que si vous êtes habitué à faire vos graphes sur Excel, vous les faites sur Excel. C'est moche, mais n'allez pas transformer vos résultats dans un autre logiciel que pour faire joli. Vous avez déjà assez d'emmerdes là-dessus. Les bases de données biblio. Ça, il faut savoir les utiliser avant la rédaction. Alors, parce qu'on a tous, alors vous avez EndNote, Zotero, tout le bordel. Ah, vous savez tous rentrer des publics dedans, mais est-ce que vous savez formater à partir de ça une bibliographie complète ? Souvent, pas trop. Ou alors, vous avez fait ça avec 5-6 articles. Quand vous avez 180 références, vous avez intérêt à savoir utiliser ces logiciels avant. Donc, avant de... Voilà. Pareil, le jour de votre test, si vous avez utilisé EndNote, ne dites pas « je vais utiliser Zotero là comme ça en faisant mon échange de base de données ». Ça va vous faire perdre du temps pour rien. Un temps de rédaction, c'est le but de votre rédaction, c'est pas de maîtriser les outils courants de la secrétaire. D'accord ? Voilà, puis ça vous permet d'être plus confortable. Alors, prendre le temps de faire le plan, organiser ses idées avant le temps rédaction, c'est-à-dire le temps rédaction, c'est-à-dire à partir du moment où je pose mon plan, je suis en temps rédaction. D'accord ? Donc je prends le temps de bien faire mon plan, de bien organiser mes idées, de bien définir mes objectifs. Se mettre d'accord sur le plan, l'organisation, les objectifs avec tous les encadrants. Et je dis bien tous. Ça vous évite, lors de la première correction, l'encadrant numéro 2, qui déboîte à peu près votre travail parce qu'il n'est pas d'accord. Ok ? Ça va vous éviter du stress. Donc avant tout, on se met d'accord avec ses encadrants. Avant de commencer à écrire la première ligne. S'il vous envoie bouler, c'est plus de votre faute. Parce qu'on sait qu'il y en a qui sont occupés. Mais l'occupation n'excuse pas tout non plus. Mais bon. Pour la rédaction, faire le plan le plus précis possible. Alors, ce qui veut dire qu'on fait le plan du plan du plan du plan du plan du plan, c'est-à-dire que chaque partie, vous allez faire un plan détaillé. De cette partie numéro 1, vous me refaites un plan de la partie petit 1, petit 2. Puis après, vous faites le plan des parties A, B, C et D. Tout ça que, avant d'écrire une phrase, dans chaque partie, vous écrivez les idées et les choses à dire. En gros, vous faites votre plan, et puis au fur et à mesure, au lieu d'écrire des phrases, vous écrivez les idées, qu'est-ce que je dois mettre, où je dois arriver. Alors ça peut être des schémas, ça peut être comme vous voulez, et en fait, la rédaction à la fin n'est que la mise en français d'un espèce de texte télégraphique avec des images et qui vous permet en fait de faire le lien entre les choses. Mais l'histoire du télégraphique, ça marche bien. C'est-à-dire, voilà, dans ce chapitre, il faut que je mette ça. Là, il faut que je parle de ça, de ça, de ça, pour arriver à telle conclusion. Qui va ouvrir sur telle chose. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on fait ? On détaille de plus en plus. Et plus vous allez faire un plan détaillé, plus à la fin, vous allez faire quoi ? Vous allez mettre les articles et les compléments, quoi. Limite les verbes. En fait, vous allez structurer en français des petits schémas, des idées et des notes. Commencez pas à arriver page Word. Je commence la première ligne à écrire. Alors ça, il y a... Faut juste pas faire comme ça. N'hésitez pas à faire des dessins, des illustrations. Un bon dessin vaut 10 pages de texte. Et ensuite, bah, vous rédigez. D'accord ? Donc voilà. Vous faites votre plan, vous décrivez, vous faites les illustrations et après vous pouvez écrire. Alors ça aussi, c'est la version du gars pas bon en français. Voilà. Ça marche aussi avec les articles. Ça permet aussi pour les articles de faire des phrases courtes et pas de 8 pages, de 8 lignes.